Interline continue après ces 7 minutes avec Vivaldi. Nous retrouvons Gérard Leclerc pour parler de son livre « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?» et nous allons évoquer le troisième dossier qui est consacré à Jacques Gaillot. Jacques Gaillot, monseigneur des médias, dites-vous. Alors, vous avez été... Vous avez suivi sans irritation Jacques Gaillot jusqu'à un moment où on retrouve Droverman, jusqu'à l'émission Transit, où Jacques Gaillot n'a pas réagi quand on a évacué l'historicité des évangiles.
Absolument.
Et là, vous avez dit, il dépasse la mesure.
Oui, absolument. Si vous voulez, jusque-là, j'avais suivi Jacques Gaillot... Je dirais pas toujours d'une façon bienveillante, parce que j'avais repéré, je l'explique dans le livre, j'avais repéré à mon sens des déviations qui risquaient de l'entraîner là où il ne voulait pas lui-même. Mais le jour où, pour moi, le problème est devenu grave, c'est lorsque, donc à une émission de télévision sur Arte, Jacques Gaillot, en face de l'hérésiarque, entre guillemets, ou du païen, je dirais, du païen,
tu as le droit.
Droverman s'est comporté avec lui comme s'il l'approuvait, sans lui poser aucune question de fond, enfin, sur sa pensée, sur son paganisme, sur son ésotérico-écologisme. C'est comme si on faisait copain, et lui, alors pour moi, bon, pardon, à Lyon. Pardon, nous sommes dans un studio à Lyon, place Saint-Irénée, et pour moi, Irénée, enfin, c'est la figure de l'évêque. Et c'est le combat de l'évêque. Est-ce que c'est que le combat de l'évêque, le docteur de l'Église qui combat le gnosticisme, le gnosticisme des origines? Alors pour moi, je vois Saint-Irénée, Saint-Irénée devant Droverman. Oui. Est-ce que Saint-Irénée devant Droverman aurait été muet?
Oui. Alors ce jour-là, dites-vous, il a été impossible de prendre sa défense. Voilà, ça a été votre tournant.
Absolument. Oui, pour moi, ça a été la rupture avec Jacques Gaillot. J'avais bien des critiques à lui formuler. Certains de ses engagements politiques ne m'étaient pas foncièrement antipathiques, au moins sur certains points. Mais ce jour-là, il y a eu une rupture.
Alors, vous dites, c'est aussi une rupture de Jacques Gaillot, une rupture de fait avec les structures de l'Église très très anciennes, en particulier avec ce qu'est un évêque depuis Saint-Cyprien de Carthage ou Ignace d'Antioche.
Oui, il ne s'agissait pas, pour moi, si vous voulez, de faire un pamphlet contre Jacques Gaillot. Il s'agissait de faire comprendre où était le problème. Parce que je crois que la plupart des gens ne l'ont pas compris, même parmi les chrétiens, ils n'ont pas compris ce qui se passait dans le cas de Jacques Gaillot. Le problème est de savoir si le personnage que les médias ont proposé à Jacques Gaillot d'être, et auquel il s'est de plus en plus identifié...
Il a été happé.
Voilà. Si ce personnage-là est conforme, je dirais, à la déontologie de l'évêque. Et je n'emploie pas le mot déontologie au sens banal du terme, je l'entends avec toute sa profondeur doctrinale. Si
défenseur de la foi.
Oui, l'évêque, pour moi, l'épiscopat, c'est en référence étroite avec le mystère de l'Église. Donc je vais chercher les origines de l'épiscopat. Et les pères apostoliques qui nous donnent la doctrine de l'épiscopat, on s'aperçoit que dès Ignace d'Antioche, tout de suite après les apôtres, la structure de l'Église est fixée. On sait ce que c'est que l'évêque. Et l'évêque, c'est celui qui gouverne son peuple, c'est celui qui l'enseigne dans la doctrine, et c'est celui qui le sanctifie. Bon, ça, ce sont les points de repère. Alors, que devient l'image?
C'est celui aussi qui peut intervenir comme Clément de Rome aux Corinthiens pour remettre un peu d'ordre dans la maison.
Absolument. Et c'est celui donc qui ne se dérobe pas à ses responsabilités de berger, de pasteur. Et donc, il ne va pas vaquer à d'autres occupations alors qu'il a sa mission. Oui, c'est son autorité.
L'autorité.
Il a une autorité. Alors que Jacques Gaillot a été happé par les médias dans la peau d'un personnage qui lui plaisait peut-être à moitié, il a fini par incarner un épiscopat new look dont les repères n'étaient plus ceux d'Ignace d'Antioche ou de Clément de Rome, mais du système médiatique.
Oui, c'est ça. Il a été victime. Enfin, il a quand même souhaité. Vous évoquez dans une conclusion dont on parle un autre jour, vous évoquez la messe de départ et devant les caméras, l'Église complètement envahie par les projecteurs,
oui.
Toute la technologie.
Oui.
Il aurait dit, c'est le plus beau jour de ma vie.
Oui, 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 oui. Oui, alors c'est là ce qui est troublant. En définitive, moi, je ne veux pas le juger. Pour moi, si vous voulez, je juge personne, pour moi, Dreverman est un personnage pathétique. Gaillot, pour moi, est un personnage sympathique, si vous voulez, mais la sympathie pour quelqu'un qu'on l'on sent proche, parce que Gaillot, c'est pas Dreverman. Gaillot, il a une foi réelle, qui est la foi de son enfance, qu'il n'a jamais abandonnée, même s'il dit des bêtises à droite et à gauche. Donc, c'est quelqu'un avec qui on est en sympathie, et on a l'impression qu'il déconne, on aurait envie de le retirer par la manche et lui dire, Jacques, mon cher Jacques, retrouve ta foi, t'es capable, tu es très bien capable de prêcher, de faire des homélies admirables dans la pure ligne évangélique, et c'est ce Jacques-là qu'on te demande d'être.
Oui, alors vous consacrez aussi un long paragraphe à Maurice Clavel et à mai 68, à cette époque du Concile. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une digression, ou est-ce que Clavel est présent là?
Non, ce que j'ai voulu...
Sans regard sur le Concile.
Ce que vous voulez, j'ai voulu donner une sorte de raccourci historique, en même temps, donc d'éclairage historique, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé dans l'Église, donc ce qui s'est passé avec Jacques Gaillot, sans avoir en mémoire la grande crise des années post-conciliaires qui coïncide avec la crise de 68. Mmh. Et là-dessus, pour moi, Clavel, dont j'ai été l'ami et dont j'ai suivi la démarche dans les années 80, en particulier quand il a écrit Ce que je crois et Dieu est Dieu, dans le nom de Dieu, et les autres livres jusqu'à sa mort, Clavel était en plein dans le problème, dans la difficulté. Clavel voyait il voyait très bien l'ambiguïté de mai 68. Il voyait très bien la dimension chien-lit, comme disait De Gaulle, mais lui, il espérait le retour de l'esprit, parce qu'il pensait qu'il y avait là quelque chose de névrotique, où il pouvait y avoir... l'esprit pouvait renaître en 68, comme il est apparu, d'ailleurs, dans toute une partie de la jeunesse de 68, qui s'est retrouvée chez les charismatiques ou ailleurs. On oublie cette dimension-là. Mais la crise de l'Église de ces années post-conciliaires et 68, si j'ose dire, explique aussi les problèmes qui se sont posés à Jacques Gaillot. Parce qu'il vient de cette période.
Parce que Clavel avait un regard quand même assez critique avec le Concile, un peu inquiet.
Un peu inquiet, si vous voulez. Clavel s'est converti à peu près dans les années du Concile. Mais il ne s'est pas converti par le Concile. Il a découvert le Concile plus tard, et il a été un peu inquiet, si vous voulez, à l'égard du Concile, dans la mesure où le christianisme contestataire qu'il récusait, lui, avait l'air de se réclamer du Concile. Alors du coup, il avait un regard un peu de biais. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce Concile dont se réclament tous ces gens-là qui sont en train d'assassiner la foi?
Alors nous ne parlerons pas de vos paragraphes. Vous évoquez l'évêque Globetrotter, cet engrenage des médias dont nous avons parlé, mais vous dites que Gaillot s'insère dans l'ère du vide après le communisme, l'ère du vide.
Ouais. Si vous voulez, quand même un tout petit mot, parce que ce qui n'est pas étranger à votre question sur le problème des médias. J'ai vécu personnellement le début de la déconnade médiatique de Jacques Gaillot, parce que j'avais un ami qui était un collaborateur de Chavannes qui m'a téléphoné un jour en disant, on a Gaillot à Ciel Montmartre ce soir, il faut que tu me trouves un interlocuteur. J'étais catastrophé, parce que là, ce jour-là, j'ai vu que Gaillot mettait le petit doigt dans un engrenage qui allait le bouffer complètement, et il allait être bouffé par cette machine médiatique qui est une machine, comment dirais-je, qui vide les choses de leur sens.
C'est tout à fait, c'est froufrou, vous avez de beaux yeux, monseigneur.
Voilà, on peut vouloir dire le message pascal à froufrou, mais ce sera forcément un message frivole, parce que froufrou, c'est frivole.
Mais enfin, il faut tout de même répondre, même là.
Oui, bien sûr.
Alors,
mais il faut casser la baraque à ce moment-là.
Gérard Leclerc, je rappelle le titre de votre livre « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?» qui paraît chez Fayard, qui coûte 130 francs. Et je vous dis encore la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Bonjour Gérard Leclerc.
Bonjour Jean Messignac.
Alors pour la troisième et dernière semaine, nous nous retrouvons pour parler de votre livre « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?». Alors nous avons déjà évoqué les dossiers concernant Dreverman, Jacques Duquesne, Jacques Gaillot. Le quatrième dossier, vous le consacrez à Jean-Paul II et à Splendeur de la vérité. Splendeur de la vérité, dites-vous, est l'axe d'une vraie discussion.
Oui, parce qu'on est toujours en train de vouloir reprocher au pape ses positions morales. Alors toujours, c'est toujours les problèmes sexuels, c'est toujours les mêmes histoires. Alors je dis, essayons de discuter sérieusement. Or là, on a un point de discussion important, c'est Veritatis Splendor, où le pape, et c'est sans précédent dans l'histoire de l'Église, a voulu faire une sorte de mise au point en morale fondamentale. Il a voulu défendre un certain nombre de grands principes sur lesquels l'Église n'entendait pas transiger. Alors ce texte est très important, je crois que ça peut être un départ de discussion très, très fécond. Encore faut-il prendre le texte pour ce qu'il est et ne pas le déformer, d'en avoir. Or, j'ai gardé tout le copieux dossier de presse de l'époque. J'étais effaré en le relisant parce que l'incompréhension, l'incompétence des gens qui ont traité de cette encyclique est phénoménale.
Certains ont tout de même senti que c'était un texte pathétique. Je me souviens une intervention à la télévision d'Alexandre Butler. Mais ça touche l'anthropologie de Jean-Paul II, son sens de l'homme, voilà.
Absolument. On ne comprend pas, en général, que l'Église ne pose pas comme ça des interdits qui seraient lancés d'une façon arbitraire parce que l'Église aurait une autorité qui ferait qu'elle lancerait des oukases ou des préceptes comme cela sur lesquels il faudrait s'aligner sans discussion. C'est pas ça le problème. C'est que l'Église est dépositaire d'un extraordinaire trésor de sagesse qui est fondamentalement biblique. Et derrière, dans ce trésor de sagesse, il y a le secret de l'homme. Et on ne peut pas comprendre les positions...
C'est toujours l'anthropologie de Jean-Paul II. Le mystère de l'homme, mystère de Dieu, mystère du Christ.
Voilà. Et on ne peut pas comprendre la morale chrétienne ou ce que dit Jean-Paul II en la matière si on n'en rentre pas dans cette anthropologie-là.
Il ne s'agit pas, dites-vous, de s'arc-bouter sur un âge révolu. C'est tourner vers l'avenir et c'est...
Oui,
l'homme éternel.
Moi, je suis frappé. Comment toutes les remarques ont été faites à l'encontre de Veritatis Splendor tombent à plat, parce que les gens qui critiquent n'ont rien compris au problème qui était posé et à cette vision de l'homme extraordinaire sur laquelle nous vivons. Même l'humanisme moderne vit sur l'anthropologie biblique. Enfin, la Genèse est un texte prodigieux, c'est un texte fondateur qui détermine notre civilisation et même les non-croyants, de même les dix commandements, même ceux qui prétendent ne pas pouvoir supporter une morale qu'ils appellent théologique se réfèrent plus ou moins implicitement aux dix commandements.
Et même la croix.
Bien sûr.
La croix et le bonheur des hommes.
Bien sûr, ça fait partie de ce que George Steiner, le merveilleux philosophe
américain.
Les ressorts cachés de notre grammaire, si vous voulez. Et cela, c'est nous avons ça en mémoire sans en avoir nécessairement la présence immédiate. C'est comme les grands mythes de la civilisation grecque. Il en va de même des grandes catégories bibliques.
Alors les principales objections, c'est contre les Lumières. C'est un texte fondamentaliste. Vous citez Alain Duhamel, Jean-Noël Jeannenet, Jean-François Kahn, etc.
Oui, tous les gens qui n'y ont rien compris. Parce que je crois, si vous voulez, d'abord, le Veritatis Splendor, c'est un texte très technique, qui n'était pas adressé, je dirais, à tous les lecteurs possibles et inimaginables. Il était pour les évêques, il était pour les universités catholiques, pour les théologiens moralistes. Tout le monde a voulu y mettre son nez. Ce qui était pas mal, en définitive, ça voulait dire qu'on s'intéressait à des choses sérieuses, mais malheureusement, on y a mis son nez en toute incompétence et on a dit de formidables bêtises.
Oui, et le problème fondamental, c'est que les gens pensent que cela, enfin ces critiques, que la conscience humaine a la possibilité, veut trouver librement son bien, son Dieu.
Oui, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, on croit que l'Église, comment dirais-je, lance des oukas, c'est-à-dire des ordres impératifs qui s'imposeraient à la conscience parce que l'Église aurait une mission divine. Bon, c'est vrai que l'Église a une mission divine, c'est vrai que l'Église ne conçoit pas l'homme indépendamment de sa relation à Dieu, et que le secret du christianisme, c'est que l'homme ressemble à Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Et donc, en définitive, le problème de la morale ou des mœurs, ce serait le problème de vivre des mœurs même de Dieu. Et je pense que là, si vous voulez, le problème de la relation à Dieu dans le domaine de la morale est moins un problème de subordination hiérarchique qu'un problème de ressemblance. Mais ça, on ne comprend pas.
Il y a tout de même un problème qu'ont évoqué bien les philosophes, Sartre, mais d'autres, bien d'autres, Feuerbach, je crois, c'est que si Dieu est tout-puissant, l'homme n'est pas libre.
Oui, c'est ça. Alors là, je crois, je mets en cause ce que j'appelle une conception mécaniste du rapport de l'homme à Dieu. Ce qui faisait que Sartre disait que Dieu n'existait pas, c'est que la liberté humaine était contradictoire avec la liberté de Dieu.
Mais d'autres philosophes ont dit avant lui, c'est une constante.
Oui, mais alors, je pense que ces gens-là ont une conception que j'appellerais idolâtrique. Ils se font de Dieu une idole, et une idole qui est inférieure à l'homme, en définitive, parce que cette idole serait dans l'incapacité, si je prends leur propre principe, d'entrer, même de communiquer avec la subjectivité humaine. Dieu ne serait dans l'incapacité de comprendre la liberté de l'homme, et il s'imposerait à lui, il n'aurait de relation que tyrannique avec ce bonhomme dont la liberté lui serait impossible. Je trouve ça assez puéril, et pourtant c'est une idée qui est commune à beaucoup de grands philosophes.
Oui, c'est-à-dire que pour le chrétien et pour le pape en particulier, Dieu n'abolit pas la liberté de l'homme, c'est Dieu qui, en se faisant homme, libère l'homme.
Absolument, si vous voulez.
Qui lui permet de devenir Dieu lui-même.
Je crois qu'il y a une idée extraordinairement fausse qui traverse l'opinion, qui traverse l'ère moderne, qui est de dire que la révélation abolirait l'autonomie de l'homme, abolirait la conscience autonome de l'homme. Je crois que c'est une foutaise. Pardonnez-moi ce langage un peu trivial. Je crois, moi, que c'est le christianisme qui a inventé l'autonomie de l'homme. Parce que la morale chrétienne n'est pas une morale irrationnelle. Le christianisme, et singulièrement la tradition catholique des moralistes, a toujours insisté sur le fait que la loi est lisible à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est législateur du bien et du mal, mais l'homme est capable de dire pourquoi ceci est bien et pourquoi ceci est mal. Et parce qu'il est capable de lire le bien et le mal, il y a une autorité de la conscience. J'emploie à dessein ce mot d'autorité parce que c'est ce que disait Newman. Newman, le grand cardinal anglais du 19e siècle, ce génie incroyable, disait que pour lui, la conscience, il avait fait un toast un jour à la conscience. On lui avait demandé de faire un toast à table, comme ça, à un banquet. On lui dit, il va faire un toast au pape, lui qui est devenu catholique. Non, il a fait un toast à la conscience. Mais pour Newman, la conscience, c'était une autorité. Ça n'était pas la possibilité de faire n'importe quoi, c'était une autorité propre à l'homme et qui s'impose à l'homme. Si vous voulez, c'est ce que j'appelle, c'est le problème de la conscience malheureuse. Et c'est le problème de du péché originel que ne comprend pas Jacques Duquesne. Qu'est-ce que c'est que la conscience malheureuse? C'est la conscience de l'homme qui est en désaccord avec lui-même. Voulant se faire législateur du bien et du mal, il est bien sûr en désaccord avec Dieu, mais il est surtout en désaccord avec lui-même, parce que sa conscience lui dit que ce n'est pas vrai, là n'est pas le bien et pas le mal. La dichotomie, elle n'est pas entre Dieu et l'homme, elle est intérieure à la conscience elle-même.
C'est-à-dire?
Eh bien, ça veut dire que la conscience malheureuse, c'est la conscience de l'homme qui fait le mal en sachant que c'est le mal. Donc il est en contradiction avec lui-même, avec sa propre conscience.
Oui, et que il est fait pour Dieu, comme dit saint Augustin, et que sans Dieu, il est malheureux. Il retrouve sa paix en Dieu.
Alors, si vous voulez,
c'est ça qui a mis une transcendance. C'est la conscience. Tout le monde parle de la conscience, mais
ce qui est très très étonnant, c'est que
au-dessous de la conscience,
c'est que la modernité a érigé Dieu en idole et même en même temps en ennemi, en puissance inquiétante, en puissance inquiétante. Alors, du même coup, tout ce qui a rapport à Dieu inquiète. Ce serait comme une menace perpétuelle d'injonction ou d'intervention de quelqu'un d'extérieur dans votre intimité. Mais alors, évidemment, là encore, je conteste tout à fait cette notion de Dieu, qui est encore une fois idolâtrique. Le problème de la relation de l'homme à Dieu, c'est le problème de l'alliance. C'est le problème de l'alliance.
Et c'est un rapport d'amour.
C'est un rapport d'amour.
Ou autrement, c'est rien.
Déjà dans la Bible, dans l'Exode, la loi est donnée à un peuple qui est libéré de l'esclavage. La loi est donnée à des hommes libres. Et elle est donnée dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire d'un échange d'amour. Après les fiançailles au désert que nous raconte l'Exode, il y a le Sinaï, il y a la révélation du Sinaï, et c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et la loi est le cadeau de fiançailles, en quelque sorte. Et le père de Lubac, dans ses textes extraordinaires sur le surnaturel, en particulier dans le mystère du surnaturel, parle du paradoxe ignoré des gentils.
Et vous ne croyez pas que c'est ce cadeau de la loi que notre monde refuse, et refuse le Père, et refuse le Pape, et refuse Dieu?
Si vous voulez, le problème du refus de Dieu, il a bien des dimensions. Je dirais il y a la dimension brutale de refuser les repères moraux. C'est tout simple. Mais il y a aussi...
Les repères, on les demande, et quand il y en a, on n'en veut plus.
Il y a aussi l'évitement, si vous voulez, de la transcendance. C'est ce que disait Clavel, et c'est pour ça que j'oppose Clavel à Drewermann. Il disait... en lisant Clavel, je dis Drewermann, c'est une technique d'évitement de la transcendance. La transcendance fait peur, et pourtant, c'est l'amour. C'est la révélation de l'amour, et l'amour fait peur.
Voilà Gérard Leclerc, nous nous retrouvons dans une minute, après un petit moment, toujours avec Vivaldi. Après cette musique enjouée, nous retrouvons Gérard Leclerc pour un dernier moment, un dernier quart d'heure, pour parler de son livre « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?» qui paraît chez Fayard. Alors Gérard Leclerc, nous avons évoqué Drewermann, Gaillot, Duquesne, le pape et splendeur de la vérité, et vous avez enfin une longue conclusion, 70 pages, que vous titrez « Propos intempestifs sur les médias et l'instinct de mort ». Alors, vous avez l'audace de poser le problème des médias, qui font l'information et qui font l'information péremptoire.
Oui. Alors là, c'est terrible. Mettre en cause les médias, ils ont beaucoup de mal à accepter ça. Et pourtant, je ne suis pas le premier à avoir fait le travail. Je fais le travail là sur le terrain que j'ai préparé à travers tout mon livre, en montrant que ces affaires-là qui ont été créées par les médias le sont toujours en termes incroyable, c'est-à-dire que l'on utilise des affaires dont on est incapable de maîtriser le fond, on les utilise comme de l'explosif social, pourvu que ça fasse le plus de mal, le plus d'éclat, etc. Mais le fond des choses, on l'ignore et on s'en moque.
On vit dans le virtuel et, comme disait l'autre, on est branché sur la poulie folle.
Absolument.
Oui.
Absolument. Mais je ne suis pas le premier, encore une fois, à avoir parlé de ça. Dans mon livre, deux personnages m'ont éclairé sur le problème spécifique, je dirais, technique des médias. Oui. C'est Régis Debray et Lucien Sfez.
Oui.
Régis Debray a écrit 4 livres lumineux, à mon sens, sur les médias, sur l'essai de médiologie. Et parmi ces livres, j'en distinguerai un, ce n'est pas le plus fondamental, mais pour moi le plus explicite dans ce domaine, qui s'intitule « L'état séducteur ». Qu'explique Régis Debray dans l'état séducteur? Il explique qu'il s'est posé un problème d'inversion à cause du rôle des médias pour l'État. Ça n'est plus l'autorité de l'État qui était affirmée par le général de Gaulle, je dirais, avec souveraineté.
Il utilisait bien les médias aussi.
Voilà. Mais il est dominé. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la dictature des communicateurs ou des spécialistes en communication. Et l'État se met toujours en situation de séduire son public. Donc il se met en scène, constamment en scène. Et Debray montre qu'il y a là une logique perverse qui amène un renversement de l'institution. Il n'y a plus une volonté, d'avoir un plan, d'avoir une logique d'État, de bien commun, etc. Il s'agit de sans arrêt de se mettre en scène et de se conformer aux repères que vous fournit le système médiatique.
Ce ne sont pas les réalités qui comptent, c'est l'image.
Absolument. Mais vous êtes obligé de vous mettre en image au détriment de la réalité et au détriment de votre responsabilité profonde d'État, d'homme d'État. C'est ce que dit Régis Debray. Et Lucien Sfès va plus loin encore. Dans son ouvrage fondamental qui s'appelle « Critique de la communication », qui est paru au Seuil il y a quelques années, il aborde de front le problème de la formation religieuse. Je pense que Lucien Sfès n'est pas chrétien, il est juif, je pense, il est juif très profond, il a une bonne connaissance. Il a une bonne connaissance des Écritures et il emploie une image biblique. Vous savez, on est toujours en train de reprocher à l'Église de ne pas avoir sa politique de la communication. Eh bien, il faut lire Lucien Sfès pour comprendre ce que ça veut dire et pourquoi il faut rejeter cette idée à tout prix. Il dit, il y a un conflit dans la Bible entre Moïse et Aaron. Moïse, le peuple ne le comprend pas. Non, parce qu'il a son langage à lui, etc., qui est un peu loin, enfin, comme on dirait aujourd'hui, des réalités, ça passe pas. Il n'a pas de politique. Moïse était incapable de formuler une politique de la communication, comme saint Paul avait été incapable de formuler une politique, d'avoir une politique de la communication quand il s'était adressé aux Athéniens qui n'y avaient rien compris. Bon, mais alors, il y en a un qui s'y entend, qui est branché directement avec le public, c'est Aaron. Parce qu'il a trouvé une idée géniale à Aaron. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, il a trouvé le veau d'or. Et le veau d'or, ça a marché. Ça a marché formidablement. C'était très parlant. Ça, c'était une politique de la communication très au point. Mais alors, quelle est la leçon à tirer de cette image? Eh bien, c'est que la communication est un piège. Et pour se mettre en situation favorable, en situation de séducteur, eh bien, on trahira la substance du message. On fera un veau d'or. On fabriquera une religion naturaliste avec Dreverman. On fabriquera un Jésus plausiblement correct avec Jacques Duquesne. On fabriquera une église recyclée à la modernité avec Jacques Gaillot, etc. Tout cela sera publicitairement correct. Et ça marchera à fond dans les médias.
Mais en dehors de ces problèmes généraux, vous parlez quand même de l'inculture religieuse dans les grands médias qui est flagrante. Enfin, on ne va pas citer des exemples. Et vous parlez aussi quand même des crispations de la société, des violences anti-religieuses actuelles.
Oui, c'est certain. Bon, l'éthique de langage, je les repère. Je repère certains tics de langage, comme on est toujours en train de parler, par exemple, de grand-messe. Lorsqu'il s'agit de pure mise en scène, qui n'ont pas de sens, etc., où il s'agit de faire du spectacle, comme par hasard, on parle de grand-messe. Je trouve que...
Non, mais il y a, je crois, plus profond, c'est que le discours religieux, le discours profond, n'est plus supportable par certains.
Il n'est pas supportable par l'instrument médiatique, c'est ce que dit Lucien Sfès. Lucien Sfès dit que il parle du judaïsme lui, mais il dit que la complexité symbolique du judaïsme est inabordable par les médias. Donc il y a toujours une entreprise de réduction forcenée du message.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que quand même au premier degré, il y a l'incroyance qui ne supporte pas les symboles de la foi?
Oui, bien sûr.
Vous le dites qu'à un moment donné, vous dites jubilation de la démolition.
Ah oui, ben ça s'est apparu de façon très évidente ces dernières années. Lorsqu'il y a une affaire qui peut faire un peu de bruit, un peu de mal, etc., on s'y précipite. Et en n'ayant pas l'air d'y toucher, en disant, bon, ça concerne des hommes, etc., comme je disais, à propos des hommes politiques, on veut faire subir à l'Église le même traitement que les hommes politiques, et oui. Parfois en les déstabilisant joyeusement. Et on pense que les mêmes méthodes marcheront, mais il faut bien voir qu'en ce qui concerne l'Église, c'est pas seulement des hommes qui sont en cause, c'est le message fondamental de l'institution. Et c'est le message que l'on démolit et que l'on abolit.
C'est la conception chrétienne de l'homme qui n'est pas acceptable dans cet univers d'individualisme.
Absolument. Absolument. Lucien
Sfès, de permissivité généralisée.
Lucien Sfès dit qu'il y a la société de communication est porteuse de son propre sacré. Et c'est un sacré fusionnel, c'est un sacré très apparenté au New Age, oui. Émotionnel dans ce sens-là. C'est syncrétique. Toutes les gnoses, toutes les orientalismes les plus frelatés, tout ça est parfaitement assimilable.
Le supermarché.
Tout cela est parfaitement homogène au système médiatique. Mais le christianisme ne l'est pas.
Oui. Alors, il faut bien parler dans ce dernier moment du préservatif. Et vous dites le pape n'a jamais parlé. Non. Qu'il y a eu un montage extraordinaire qui est parti d'une mauvaise irritation à Kampala quand le pape n'a pas eu de préservatif, a parlé de l'amour. Oui. Et à partir de là, il s'est monté un espèce d'énorme chose qui a couru le monde.
Oui, mais c'est un énorme cinéma. Là-dessus, je renvoie à l'ouvrage de mon ami Tony Anatrella, qui est décisif, qui s'appelle L'amour et le préservatif. Il y a tout le dossier. Tout ce cinéma vraiment surréaliste qui a été fait autour du préservatif, c'est encore une technique d'évitement. Une stratégie d'évitement pour obliger à ne pas parler des choses importantes et fondamentales. Quelles sont les choses importantes? Eh bien, c'est le problème de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour humain? Qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre? Tony Anatrella, bien connu Cyril Collard, l'auteur des Nuits Fauves, et il montre que Cyril Collard, c'était quelqu'un qui remettait très, très violemment en cause la société permissive.
C'est qu'il le vivait lui-même.
Mais, d'autant plus qu'il le vivait lui-même, dans ses incertitudes, dans sa tragédie profonde, et on ne l'a pas compris. Or, on ne l'a pas compris, pourquoi? Par refus de poser les problèmes de fond. Vraiment, les problèmes les plus vitaux, qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors là, c'est le grand évitement.
Oui, et on revient toujours à l'anthropologie du pape, à sa conception de l'homme, qui et c'est pour cela qu'il attaquait. Puis il attaquait aussi parce qu'il existe.
Bien sûr. On lui reproche d'être et de dire. D'être, on lui reproche d'être et de dire. On voudrait délégitimer non seulement son autorité, mais je dirais sa simple présence humaine. Comme si aujourd'hui la modernité avait fait éclater toute normativité et toute vérité. Nous devrions obligatoirement être dans un univers complètement éclaté.
Il n'y a plus de normes.
Voilà. Alors, et pourtant, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est diablement nécessaire, pardonnez-moi ce diablement qui est incongru. Nous avons vécu des événements terribles ces jours-ci, enfin tout ce qui s'est passé en Belgique, etc. Enfin ces jours-ci, il y a déjà quelques semaines déjà, mais nous n'avons pas encore quitté cela. Nous apercevons en fait que c'est pas seulement un milieu qui est en cause dans cette affaire.
C'est la société.
C'est une société qui est terriblement malade, qui est terriblement blessé. Et alors, il est paru un article assez extraordinaire dans le Nouvel Observateur, là-dessus, un psychanalyste qui était interrogé, qui disait, bien sûr, on est dans une société qui est complètement paumée, où il n'y a plus d'autorité. Bon, s'il n'y en a plus qu'une, c'est celle du pape. Oui. Elle est mal acceptée, mais elle existe. Alors, on comprend que s'il n'existe plus que celle-là, on peut le regretter d'ailleurs par ailleurs, qu'il n'y ait pas d'autres voix qui appuyaient celle du pape, la conforter ou donner d'autres lumières, eh bien à ce moment-là, le pape est en position super exposée. Il est la proie de toutes les critiques, de toutes les violences.
Vous parlez à un moment donné dans votre livre des liens entre Jean-Paul II et André Frossard, à qui vous avez dédié votre Jean-Paul II résistant, et par-ci par-là, y compris Jacques Juillard dans l'Observateur il n'y a pas très longtemps, compare un peu De Gaulle et le pape. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux, au moins leur dimension?
Oui, bien sûr, ce sont des hommes qui dominent leur temps, qui dominent leur époque. C'est ce qui avait frappé Frossard. Et je rappelle quand même qu'il y a peut-être un seul lien entre De Gaulle, biographique entre De Gaulle et le pape,
ah, oui.
Vous savez, c'est que le pape est né en 1920. C'est l'année du miracle de la Vistule, très important pour les Polonais, parce que leur indépendance était menacée, leur indépendance toute neuve. Hein.
Frossard, qui est né en 1920, dites-vous?
Le pape est né en 1920, ah, oui. L'année du miracle de la Vistule. Ah oui. Lorsque les troupes polonaises aidées des armées alliées ont repoussé les troupes soviétiques. Et De Gaulle était à Varsovie en 1920. Il était venu à Varsovie à ce moment-là, en 1920. Donc De Gaulle était présent à Varsovie l'année de naissance du pape.
Et quand on attaque le pape, on peut se souvenir que dans les années 60, fin des années 60, De Gaulle, c'était Charles Audessous qui a eu une caricature avec une petite moustache et une barque et les cheveux sur le front comme Hitler. Alors Gérard Leclerc, nous avons fini, je vous remercie d'être venu. Je vais citer, vous reprenez votre titre à la fin, Pourquoi veut-on tuer l'Église, et vous donnez quatre raisons, et je cite que la première, on veut tuer l'Église parce qu'on ne veut plus entendre parler de responsabilité, de culpabilité, de faute, de péché, et donc d'un Dieu qui pardonne. Et votre dernier mot, c'est courage, j'ai vaincu le monde. Merci Gérard Leclerc.
Merci Jean Massignac.